il y a 10 ans exactement, un Airbus 330 d'Air France, le vol 447 qui effectuait la liaison entre Rio et Paris, a mystérieusement disparu. Et puis, finalement, on a retrouvé l'épave de l'avion dans ce qu'on appelle le Poteau Noir, qui est une région entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, en plein cœur de l'océan Atlantique. Et là, il y a un documentaire fascinant sur la recherche des fameuses boîtes noires qui va pouvoir être vu dimanche soir.
Oui, ça s'intitule AF447, la traque du vol Rio-Paris. C'est sur Planète Plus. Je ne sais pas si vous avez cette chaîne-là. 20h30 dimanche. Et c'est un, ils appellent ça un thriller documentaire, et c'est tout à fait ça. Parce que vraiment, là, on est sur le bout de nos chaises pendant tout le film. Rappelons les faits. Donc, ben, vous l'avez fait un peu, Paul, le 31 mai 2009, décollage à 22h29 à Rio vers Paris. Et là, ça disparaît. On n'a plus de nouvelles et finalement, on apprend que l'avion n'arrivera pas. Et dans le documentaire, on voit des parents de victimes qui sont encore outrés par la façon dont ça s'est passé, parce que le dossier a été confié au bureau d'enquête et d'analyse qui s'est mis à la recherche des boîtes noires. Et là, ils ne trouvaient rien, mais rien. Et on voit des images de ça parce qu'ils ont tout filmé, eux. Et les images, étonnamment, sont assez bonnes, hein, Thérèse?
Elles sont très bonnes. Images très bonnes. Une réalisation excellente, c'est-à-dire un montage très prenant. Parce qu'il faut savoir que ces images-là... d'abord, on sait que l'enquête est terminée sur l'AF-447. Mais le procès n'est pas terminé. Mm-hmm. C'est-à-dire, l'enquête est terminée, mais il y a encore un procès. Et ces images-là ont dormi, stockées dans des coffres-forts pendant quelques années quand même. Et il y avait 150 heures d'archives, ou à peu près. Et à un moment donné, le réalisateur s'est mis à regarder ces archives-là. Écoute, il s'endormait devant les archives parce que il dit qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de réunions d'ingénieurs. Tout a été filmé. Toute cette recherche-là a été filmée. Et là, on se rend compte, parce que quand le documentaire ouvre, on ouvre sur deux boîtes pleines d'eau avec des boîtes noires dedans. Ma première question, moi, c'était pourquoi sont scellées avec de l'eau dedans? C'est une question que je me posais. Puis j'ai eu la réponse à la fin du documentaire, effectivement. Mais donc, les boîtes noires sont dans l'eau, sont scellées. Et là, il y a des gendarmes autour et on s'apprête à les ouvrir. Et bien sûr, on commence en disant, à la recherche des boîtes noires, le drame est arrivé. Et là, on se met à nous expliquer la dimension technique de cette recherche-là qui a, et avec le point, et là, t'es en mer, tu ne vois pas, évidemment, d'horizon. T'as beau tourner sur toi-même à 360 degrés, tu ne vois pas d'horizon. Et eux sont au centre de ça et cherchent vraiment les boîtes noires. Puis à un moment donné, ben, ils entendent un son.
Ben, ils en ont échappé quelques-unes, ouais, Paul. Ouais. Et les gens là, étaient furieux. Là. Les proches des victimes suivaient ça jour après jour, les journalistes aussi. Et là, ils se faisaient dire des affaires contradictoires. Et à un moment donné, l'équipe a confondu le signal des boîtes noires avec le cri des baleines. Ils ont perdu 2 jours avec son... Écoutons un extrait.
Et là, on se dit non, c'est pas vrai, on n'a pas perdu ces 2 jours pour un banc de baleines. C'est pas ça qu'on cherche, c'est pas ça qu'on est venu chercher. Et là, on est en colère. Là, on est en colère. On a perdu 2 jours, c'est une grosse frustration.
Il y a eu des baleines. On confond le bruit des boîtes noires avec celui des baleines. Donc si c'est vraiment très professionnel quand vous voyez ça de l'extérieur, vous vous dites bon... Ce serait quand même bien de vérifier avant de parler, quoi, parce que je crois qu'on ne se rend pas bien compte de l'impact que ça peut avoir côté famille.
Il aura fallu 2 ans pour les retrouver, les boîtes noires.
Oui, puis 2 jours, là, c'est long dans les circonstances parce qu'il faut faire vite, hein, pour
trouver
ces boîtes noires.
Et là, à un moment donné...
Celle qu'on vient d'entendre, c'est Ophélie Touliou. Son frère est décédé, était parmi les victimes.
Oui, et il y avait... c'est vraiment monté comme un thriller. C'est vraiment monté comme... À un moment donné, tu te dis... tu descends au fond des mers avec eux. Tu descends écoute, ça leur prend à peu près comme 12 heures pour descendre leur appareil. Ils sont à côté du bateau, puis là, l'appareil descend pendant je ne sais pas combien d'heures, pour combien de kilomètres. Et là, évidemment, on a des images. Et on se promène dans le fond de l'eau. Et là, tu as quasiment peur de trouver quelque chose. C'est un peu... Il y a beaucoup d'anxiété chez les gens qui travaillent à chercher cette boîte noire-là, ces boîtes noires-là. Et finalement, quand on les retrouve, c'est vraiment construit comme un thriller. Alors, j'ai vraiment été happée un peu par cette recherche-là.
Moi aussi,
puis surtout par la dimension technique, comment on fait les appareils. J'ai été étonnée de voir comment on pouvait lire des cartes de cette façon-là. Bref, j'ai trouvé ça très, très intéressant.
Puis les proches sont très pertinents dans leurs commentaires. Surtout celle qu'on vient d'entendre, là, elle ne va pas de main morte. Elle n'a pas langue dans sa poche, mettons.
Alors, c'est dimanche soir sur Planète Plus.
À 20h30.
La fin des squelettes dans le placard. Ça fait longtemps que Patrice Lécuyer est à la barre des squelettes dans le placard.
14 saisons, Paul. 14 ans. Et là, Radio-Canada a renouveler sa grille estivale. Alors, ils ont décidé que c'était terminé. Au bout de 1094 émissions, ce qui équivaut, Paul, à 3282 squelettes. Vrais squelettes.
Oui, parce qu'il y en a trois.
Oui, parce qu'il y a toujours un squelette fantôme.
Oui.
Et à l'époque, ça avait été... Radio-Canada voulait mettre L'Union fait la force 12 mois par année. Et les producteurs trouvaient que ça allait user le concept. Et c'est Jean-Claude L'Espérance qui a dit non, on va faire un dérivé des détecteurs de mensonges. Et Yves Tachereau s'est remis à la table de travail pour concevoir des squelettes dans le placard. Et ça a duré toutes ces années-là. C'est le dernier contrat de Michel Chamberlain, producteur. Lui, c'est le seul contrat qui s'était gardé pour la fin de sa carrière. Là, il a 69 ans, je lui ai parlé. On a jasé pendant une heure au téléphone.
Il va bien?
Il va très bien. Là, il dit, je pense que c'est assez. Je vais prendre ma retraite. Son père a 98 ans. Fait qu'il dit, je peux me rendre jusqu'à...
Hey, ça, c'est plus vieux que le mien.
Ah oui, ben
par 5 ans.
Que M. Big Ben.
Ah, il m'a battu.
Donc, là, qu'est-ce qu'il va y avoir, Thérèse, dans cette grille-là?
Parce que
Radio-Canada a testé un autre quiz à 17h30 durant un mois. Ça n'était que pour un mois. Mémorable avec Pierre Yvelard. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça n'était pas mémorable.
Ben pas à ce jour, mais il reste que la dernière de Les squelettes dans le placard, on va voir ça le 5 septembre.
Ouais.
Ils ont tourné la dernière
Mais Thérèse et moi, on en avait parlé, avec Pierre-Yves-Laure.
J'avais pas trouvé ça inintéressant, c'est juste que Le squelette dans le placard, c'est comme quelque chose qui a eu une énergie très différente.
En fait, quand ça te prend plus que 30 secondes... Pour expliquer un quiz, j'en ai mis quelques-uns, et on m'a toujours dit ça. Les concepteurs te disent, Richard, si ça nous prend plus que 30 secondes pour vous l'expliquer, ça marche pas.
C'est surtout
que
mémorable et léger.
Ultimatum,
ils utilisaient leur miroir. Les gens disent, 14 saisons, là, c'est assez, on a fait le tour, on va passer à d'autres choses. Mais ça, je trouve que c'est très québécois comme réaction. Parce qu'aux États-Unis, il n'y a personne qui dit « The Price is Right », ça fait trop longtemps que c'est en on va arrêter ça. Jeopardy, The Wheel of Fortune.
Puis je vais te dire qu'à l'heure des squelettes, quand tu as 500 000 personnes qui regardent, je ne m'inquiéterais pas trop.
En plein été, là.
Je ne m'inquiéterais pas tant d'avoir 500 000 téléspectateurs ou 400 000 ou même 380 000.
Mais vous avez parfaitement raison.
À cette heure-là, j'entends.
Ben,
on n'est pas en prime time, là.
Moi non plus. Et tout ça pour dire que, Lingo pourrait très bien revenir, Richard.
À 19h le soir, ça serait bien, ça.
Avec l'infâme boule noire.
L'infâme boule noire.
Nous avons été coupés beaucoup trop tôt.
Et Pierre-Yves McSween serait très heureux.
Pourquoi?
Pierre-Yves Lingo.
Pierre-Yves adorait Lingo.
Absolument.
Mais c'est vrai, Richard et Thérèse, vous avez raison tous les deux. Comment ça se fait qu'on déboulonne?
Ça, c'est ici.
C'est québécois.
Ici.
Mais expliquez-moi ce que vous voulez dire par « c'est très
comme
québécois ».
Comment on va déboulonner,
ça marche.
On va déboulonner certains animateurs parce qu'on veut avoir des gens plus jeunes. Alors, aux États-Unis, on ne se pose pas cette question-là. Un bon animateur, c'est un bon animateur. Il reste là, puis il est là tant et aussi longtemps qu'il est bon, puis qu'il est...
Mais le public,
qu'il livre le public, en général, est fidèle. Je te parle on parle de 450 000 téléspectateurs, mettons, ou 400 000 là, pour une émission qui n'est pas à une heure de grande écoute, nécessairement, je trouve que c'est déjà pas mal, moi, dans cette division.
Il y a une autre chose aussi où on est très québécois dans le choix des quiz, c'est qu'ici, il ne faut pas que ça soit trop difficile. Jeopardy, là, ici, Jeopardy, ça a duré deux saisons avec Réal Giguère. Pourtant, c'était excellent, mais c'était trop difficile. Question pour un champion en France, là, on ne pourrait pas faire ça ici parce que c'est trop difficile. Ben voyons donc.
Tous pour un, ça a bien marché.
Forçons-nous un peu. Tous pour un, ça a bien marché, quoique les...
C'était difficile.
C'était difficile, pourtant. Les dernières versions ont un petit peu moins marché, mais ça a quand même marché. Mais,
voilà. Il ne reste pas beaucoup de quiz. Il reste le tricheur.
Non. Au suivant, qui marche bien quand même, avec Stéphane Bellavance, qui est pas mal difficile.
C'est intéressant
par
quand même. Oui, puis c'est intéressant justement parce qu'il y a des difficultés, il y a des degrés de difficulté. Ça, c'est intéressant.
Il y a Génial à Télé-Québec aussi.
Ah oui, c'est bien sûr, avec années.
Mais en terminant, juste pour dire que c'est le Gala Québec Cinéma en fin de semaine. Hein, vous le savez, 16h dimanche, Karine Gontier-Henman et Guillaume Lambert vont animer le Gala Artisan Québec Cinéma. Et il y a le tapis rouge du Gala Québec Cinéma à 19h30 à Radio-Canada, animé par Herbie Moreau et Claudine Prévost. Puis le Gala, c'est à 20h. Puis c'est Guylaine Tremblay et Edith Cochrane qui anime en direct du studio 42 de la
et
Maison.
Moi, c'est ma fête et je travaille quand
oui,
même.
Oui, ça va être ta fête. Ça va être ta fête. Bonne fête à l'avance.
Et on espère qu'on va pouvoir souligner, évidemment, le départ, bien sûr, de Jean Beaudin, très certainement, il y a quelques jours. Mais surtout, je dis surtout parce que c'est survenu là aujourd'hui, le départ de Jean-Claude Labrecque.
C'est incontournable.
C'est incontournable. Ça donne 48 heures pour se retourner, mais je pense que.
Et il y a un documentaire sur Jean-Claude Labrecque ce soir à ICI RTV à 22h. Je vous le dis comme ça. Mais Jean-Claude Labrecque qui est un pionnier de notre cinéma documentaire puis une grosse pointure de notre cinéma vraiment qui est parti.
Merci beaucoup, Richard Thérien, et bon week-end.
À lundi.
Thérèse, évidemment, on rejoint Sylvain Ménard, notre distingué collègue de la nuit le week-end, parce qu'il a accepté de, comme on dit, se lever un peu plus tôt pour venir nous raconter l'histoire en musique d'Elton John au cours de notre dernière demi-heure.